Radio Grenouille, cuisine en friche, 10 minutes, 10 minutes, cuisine en friche, 10 minutes.
10 minutes avec, 10 minutes avec Emmanuel Giraud. Emmanuel Giraud est artiste et journaliste, ancien pensionnaire de l'Académie de France à Rome, Villa Médicis, dans la discipline art culinaire. Diplômé du Studio National des Arts Contemporains du Frénois, Emmanuel Giraud explore dans son travail artistique le thème du souvenir culinaire par le biais de la performance de vidéos et d'installations sonores. Journaliste, il collabore à différents magazines de presse écrites, Gastronomie Magazine, Régal, Saveur, Les Cahiers de la
Cuisine. Et tant d'autres.
Et tant d'autres. Notamment également, il publie des textes dans les revues Dorade, Halle et Edwarda, une très belle revue. Il a également été chroniqueur à Radio France, notamment à France Culture. Et il a publié de nombreux ouvrages, dont La mer aux éditions Argol, L'anthologie fabuleuse, fallacieuse et fastétieuse du pâté en croûte aux éditions alternatives, et L'excès aux éditions de l'épure. Et puis, il a réalisé une performance, Le souper funèbre d'Emmanuel Giraud, n'est-ce pas Emmanuel?
Oui, bonjour. Oui, moi je suis passionné par un personnage qui a vécu entre la fin du 18e et le début du 19e siècle, qui s'appelle Grimaud de la Reynière. Et Grimaud de la Reynière, c'est un petit peu l'inventeur de la littérature gastronomique. C'est le premier qui a vraiment théorisé l'écriture culinaire. Au lieu d'écrire des livres de recettes, il a fait la critique. Il était le premier à avoir un peu d'esprit critique. Et c'est quelqu'un d'extrêmement facétieux aussi. Et à l'âge de 25 ans, alors qu'il sort son premier livre, il a l'idée totalement tordue mais géniale d'envoyer des faire-part de décès à ses amis. Alors, très étonné, les gens reçoivent ces faire-part de décès et ils se demandent quand même, c'est un peu jeune pour mourir, 25 ans. Ils se rendent au dîner funèbre organisé par Grimaud de la Reynière. L'hôtel particulier de ses parents était entièrement drapé de noir, des bougies noires, un cercueil au milieu de la pièce, ambiance extrêmement macabre. Et finalement, il n'est pas mort. Donc, il surgit dans la pièce, il les accueille et il les enferme. Donc, il y a déjà quelque chose un petit peu carcéral, un peu à la Joseph Beuys. Et puis, il les oblige, enfin, c'est un dîner, mais voilà, il leur fait subir 14 services de 5 plats chacun. Donc, toute la nuit, les convives sont obligés de rester à table, ils ne peuvent pas sortir. Ils doivent déguster les 14 services.
Alors justement, Emmanuel Giraud, combien de temps dure un repas?
Ah, le temps idéal? Bah, toute une vie. Non, toute une nuit. Je pense que la nuit, c'est un joli moment pour faire des soupers qui n'en finissent plus.
Parce que vous faites perdurer le repas au-delà du temps du repas, c'est-à-dire aussi dans son anamnèse, dans la réminiscence du repas.
Et oui, puisque la grande difficulté de la chose culinaire, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à en garder une trace tangible. Alors évidemment, on peut faire des photos, on peut faire des vidéos du moment qu'on passe à table, mais on aura jamais le goût, on n'aura jamais ces odeurs, on n'aura jamais tout ce qui se passe autour de la table, les clins d'œil, les conversations, les dessous de table aussi, hein, les petits pieds qui se baladent, etc. Ça, on ne peut pas le capter, on ne peut pas avoir un média qui arrive à garder une trace globale de tous ces moments de table ou autour de la table ou en dessous de la table. Et donc, moi, ce qui me fascine, c'est d'essayer de garder une trace à travers le souvenir qu'ont chacun des convives qui ont participé à un même repas.
Alors, Bastien Gallet, dites-vous que vous êtes un anti-gastronome.
Oui, ça c'est une formule effectivement qu'il utilise dans le texte qu'il a réalisé pour le catalogue Devenir Gris. La performance réalisée aux Beaux-Arts de Montpellier. Et effectivement, il dit ce terme parce que, voilà, selon lui, voilà, je déconstruis un peu les règles et les codes de la gastronomie pour essayer de travailler sur autre chose, et sur cette mémoire et sur ce côté impalpable et évolutif et qui tente à disparaître.
Vous vous êtes intéressé à d'autres repas célèbres?
Oui, notamment lorsque j'étais à Rome, lorsque j'ai eu la chance d'être pensionnaire pendant un an à la Villa Médicis, je me suis penché sur le festin de Trimalchion. Ça, c'est quelque chose de totalement extraordinaire qui me fascinait depuis de nombreuses années. C'est un repas, en fait, qui est une fiction, cette fois-ci, qui est un passage du Satyricon de Pétrone. Et donc, on a affaire à Trimalchion, qui est un personnage totalement décadent, un ancien esclave devenu donc affranchi par son maître, devenu très riche et qui veut en mettre plein la vue de ses invités, et donc il organise un grand banquet décadent, et tous les plats sont en trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on ne mange jamais vraiment ce qu'on pense avoir dans l'assiette. Il y a toujours des trappes, des surprises, des poulies, des choses qui sortent des animaux qu'on pense manger, et donc c'est quelque chose qui m'a fasciné, parce que il y a dans cette cuisine qui est quand même extrêmement tape à l'œil, il y a quand même une espèce de grâce, de poésie, de choses complètement merveilleuses, de l'étonnement qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de restituer à travers une logique plus contemporaine, c'est-à-dire quand même plus digeste.
Alors vous serez l'invité du face-à-face de samedi à 19h aux grandes tables, et vous serez face à Pascal Horry. Et Pascal Horry d'ailleurs écrit ceci: l'art culinaire n'est pas dans l'assiette, du moins il ne s'y limite pas, c'est-à-dire que l'art culinaire c'est tout autour, c'est-à-dire c'est la question du spectacle déjà.
C'est la question du spectacle, c'est la question du discours aussi, sur les mots qu'on met sur les choses qu'on est en train de vivre, ce qu'on a déjà dégusté. C'est toute la... effectivement, ça concerne aussi bien le décorum que l'ambiance, l'humeur, éventuellement la météo du jour, le courant d'air qui nous passe dans le dos, et puis, je ne sais pas, voilà, le regard, lorsqu'il ne reste plus, par exemple, qu'une tête de bécasse sur le plat, et puis qu'on est plusieurs à vouloir se l'accaparer, et puis on se dit, qui va la prendre, et tout le jeu des politesses, le jeu des désirs et de la frustration.
Vous êtes un peu maniériste alors.
Oui, ça c'est ce que dit Bastien Gallet, effectivement, qui me compare à maniérisme.
Sans doute pas que maniériste, il doit y avoir un côté un peu de sadisme en vous, puisque vous avez quand même écrit deux ouvrages, un ouvrage qui est quand même autour de Éloge de l'excès, Manuel Giraud, et un second ouvrage, une sorte d'éloge de la mer, du goût pour l'acidité.
Non, pas pour l'acidité, justement, pour l'amertume.
L'amertume,
cette saveur complètement méprisée en France, alors qu'en Italie, j'ai eu l'occasion de le constater en vivant sur place, l'amertume est une saveur qui est au contraire magnifiée, qui fait partie de la tradition culinaire italienne, et c'est quelque chose qu'on apprend très tôt, pour lequel il y a un vocabulaire extrêmement riche et divers. Hein. On dit que les Esquimaux ont un vocabulaire très riche pour décrire toutes les différentes sortes de neige. Et bien les Italiens ont un vocabulaire très riche pour décrire l'amertume et les différentes sortes d'amertume qui sont a priori toutes plus ou moins agréables. C'est une valeur positive, l'amertume.
Alors pourquoi en France on a du mal ?
Eh bien, en France, il a existé quand même hein, des endives amères, il a existé des apéritifs amers. On pense au picon, hein, le picon, on pense à la gentiane, et à la suze et tous les apéritifs à base de gentiane, les bières du Nord qui cultivaient une certaine amertume, et on l'a perdu. Alors, il y a plusieurs types d'explications possibles. Hein. Certains avancent que, effectivement, l'industrialisation, l'arrivée des supermarchés fait qu'il y a une sorte d'uniformisation du goût par ce biais-là, et qu'on a perdu... effectivement, l'être humain, naturellement, tend plus vers le goût sucré, qui est, pour le petit bébé, le nourrisson qui vient de naître, va tendre vers le goût sucré, parce que ça va lui apporter une source d'énergie très facilement assimilable. Le sucre, c'est l'énergie. Alors que l'amertume, au contraire, les tout petits enfants vont faire appelle le réflexe gustofacial, de dégoût, dès qu'on leur pose quelque chose d'amer sur le bord des lèvres, parce que on a en nous, en fait, le réflexe de refuser les plantes toxiques qui possèdent des alcaloïdes en fait amers.
Sans doute qu'il y a ça participe du processus d'infantilisation auquel nous assistons. Peut-être un dernier mot sur l'excès. Emmanuel
oui.
Giraud.
L'excès que j'ai publié aux éditions de l'Épure, parce que j'aimais beaucoup ce grand écart entre l'excès et l'Épure. Et en fait, bon, bah, c'est un petit livre dans la collection 10 façons 2, donc qui sont des petits livres de recettes. Et moi, je détourne un peu le principe du livre de recettes pour en faire déjà dans la préface une sorte de pamphlet contre l'hygiénisme ambiant. Et donc une allégorie, enfin vraiment un éloge de tous les plaisirs de la table et de la cave. Et puis, dans les 10 recettes, en fait, ce sont 10 protocoles de performance culinaire que j'ai pu réaliser depuis une dizaine d'années.
Merci Emmanuel Giraud. Je rappelle qu'il est l'invité du face-à-face qui aura lieu samedi aux Grandes Tables avec Pascal Horry. Et ce face-à-face sera en direct de Radio Grenouille, donc samedi à 19h, dont j'aurai l'immense plaisir d'animer. Merci.
Merci.
10 minutes avec Cuisine en friche.